Vous allez écouter Sur ma route, une émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sur ma route. Aujourd'hui, nous allons parler des bonnes réactions à avoir en cas d'accident, que l'on soit accidenté ou témoin, et des comportements à risque que l'on peut avoir sur la route. Et pour répondre à mes questions sur ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir le lieutenant sapeur-pompier Patrick Chavada.
Bonjour.
Et Geoffrey Bilxo. Bonjour Geoffrey.
Bonjour.
Qui est sapeur-pompier volontaire. Alors vous avez d'autres fonctions, vous allez nous en parler. Geoffrey, en fait, je t'ai invité parce qu'on te connaît sur les réseaux sociaux. En tout cas, ceux qui sont sur TikTok et Instagram t'ont sûrement déjà vu. Et tu diffuses des messages de prévention et de sécurité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu as décidé de faire ça ?
J'ai décidé de faire ça donc à travers les réseaux sociaux, de faire des vidéos assez courtes, histoire de sensibiliser et aussi de faire de la prévention, notamment sur TikTok, sur Instagram.
Bonne manière de toucher un peu tout le monde, mais peut-être surtout les jeunes, non ?
Oui, voilà, c'est ça, notamment les jeunes et les très jeunes.
Parce que tu as 22 ans, c'est ça ?
22 ans.
Donc tu parles à ta communauté. Et ça a été quoi la réaction des sapeurs-pompiers et de vous, lieutenant, quand il a décidé de faire ça et de passer à un mode de communication qui est un peu différent ?
Effectivement, le mode de communication pour les jeunes, elle est bien par les jeunes. Donc c'est pour ça qu'on a une attention bienveillante sur cette façon de communiquer, puisque nous, on utilise de la communication traditionnelle, hein. Et c'est vrai que pour toucher les jeunes, il n'y a rien de mieux que les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Et donc, Geoffrey est un petit peu le relais et un peu pour nous la tête de pont de l'information des jeunes sur les comportements qui sauvent, les comportements à risque ou autre type de comportement. Et donc, c'est intéressant pour nous de toucher les jeunes.
Et alors, comment ça se passe ? C'est un travail que vous faites tous les deux. Il y a la vérification des messages avant pour être sûr de diffuser les bons messages. Comment vous fonctionnez ?
Alors je fais mes vidéos de mon côté. Après, sur certaines vidéos, je demande beaucoup de conseils au lieutenant Chavada. Et ils m'aident beaucoup aussi pour les montages.
Parce que ce n'est pas évident de donner des conseils sur des vidéos qui sont très très courtes.
C'est sûr que ce n'est pas évident. C'est assez compliqué parce qu'il faut dire un maximum d'informations. En très peu de temps, je fais des vidéos qui durent en moyenne entre 30 et 45 secondes. Donc, donner un maximum d'informations à travers la vidéo, c'est un peu compliqué.
Et donc, vous intervenez, lieutenant, pour...
Je dirais le moins possible, parce qu'on veut quand même garder la spontanéité de la jeunesse. Et donc, on ne veut pas trop être intrusif dans ces interventions. Il se débrouille bien, il est pompier volontaire, donc il connaît déjà les comportements, il connaît les gestes à effectuer. Bon, après, on est là en aide, je dirais, technique, et de messages s'il a un souci, ou alors on regarde un petit peu les vidéos de temps en temps. Mais on le laisse quand même travailler tranquillement et on est là à sa disposition quand il a besoin de nous.
Si besoin, voilà. Vous êtes les assistants.
On est les assistants, tout à fait.
TikToker. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors les retours que vous avez par rapport à ça, vous avez des messages en direct, peut-être même les gens quand ils vous voient, quels sont les retours ?
Beaucoup, beaucoup de retours positifs, que ce soit au niveau des pompiers, au niveau de la gendarmerie, au niveau de la sécurité routière, au niveau de la jeunesse aussi. Donc après...
Des questions peut-être aussi
énormément de questions.
Il y a une bonne liste de sujets à venir pour les prochaines vidéos.
Voilà.
Il y a de quoi faire.
Beaucoup de projets.
C'est parfait. Et ben justement, parler sécurité routière, c'est vraiment le sujet de l'émission aujourd'hui. On a besoin de vos conseils, de vos bonnes informations pour avoir les bons gestes. Si je suis témoin d'un accident, qu'est-ce que c'est la première chose que je dois faire, à laquelle je dois penser ?
Il faut penser à soi, à se protéger, la première chose. Ce qui veut dire que théoriquement, dans tous les véhicules, on a des gilets fluorescents, on a des dispositifs lumineux qui vont permettre d'avertir les autres usagers. Donc la première chose à faire, c'est de mettre ses warnings, c'est de garer son véhicule en bordure de route pour éviter un suraccident, et surtout... et on le voit assez rarement, c'est de mettre son gilet fluorescent. Et une fois qu'on sort du véhicule, on est visible par les autres usagers. Et ça va nous permettre éventuellement d'aller nous positionner au niveau de la personne pour porter secours. Donc je dirais que la première chose à faire, c'est se protéger soi-même.
Même si on n'est pas accidenté.
Même si on n'est pas accidenté, bon, bien évidemment, les gens s'arrêtent pour donner un coup de main. Mais souvent, on s'aperçoit que les gens n'ont pas cette réaction de mettre le gilet fluorescent. On l'a dans la boîte à gants.
Mais c'est obligatoire.
Mais on l'utilise pas. On l'utilise pas.
Mais c'est peut-être une histoire de panique aussi, parce que quand ça arrive, on a peut-être
je pense que c'est un problème d'éducation de la population justement à ces gestes de sécurité.
Et donc, d'abord, je me protège. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ?
Geoffrey,
On va mettre en place le PAS, le Protéger, Alerter, Secourir. Donc, comme l'a dit le lieutenant Chavada, d'abord se protéger soi-même. Ensuite, alerter les secours, dire le lieu, s'il y avait des victimes ou non. Et ensuite, porter secours s'il y a besoin.
D'accord. Et alors, pardon.
Alors, dans l'alerte des secours, il faut être... Alors, c'est vrai que jusqu'à quelques années en arrière, on diffusait des messages d'alerte qui étaient assez longs, assez compliqués. Maintenant, un message d'alerte au secours, il doit être très simple, puisqu'on a des gens qui ont au téléphone qui sont un petit peu affolés, qui sont stressés parce qu'ils ont une situation qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc, on va tout simplement leur demander... Il y a un dialogue qui va s'instaurer avec le preneur d'appel. Et donc, il faut uniquement dire qu'est-ce qui se passe, où on est, son numéro de téléphone. Et derrière, il y a un dialogue qui va s'instaurer avec le preneur d'appel qui va vous poser des questions. Combien il y a de victimes? Combien il y a de véhicules impliqués? Alors, pourquoi combien de victimes? Parce que tout simplement, de l'alerte va dépendre l'envoi des secours.
Bien sûr.
Il faut savoir que dans une ambulance de pompiers, on met une victime. Si vous nous dites qu'il y a 4 victimes, a priori, c'est 4 ambulances qui vont partir. Donc 4 ambulances, ça fait partir différents centres de secours. Donc tous ces éléments sont importants pour nous. Est-ce que la victime est coincée dans le véhicule ou pas? C'est-à-dire qu'il y a un véhicule de désincarcération. Est-ce qu'il y a une notion de feu, une notion de danger particulier avec des fils électriques ou des choses comme ça? Donc tous ces éléments-là vont nous permettre de faire partir les secours adaptés à la demande qui va nous être faite.
Peut-être se calmer aussi, respirer un bon coup, ça peut être une bonne idée.
Oui, ce qu'on appelle la respiration active. On inspire profondément, on expire profondément pour se calmer. Ça stabilise un petit peu l'état psychologique. Et après, Geoffrey a parlé des numéros d'urgence. Et c'est vrai qu'on a, en France, on a tout un tas de numéros qui existent.
Prochaine question.
Voilà, on a le 15, on a le 15 pour le SAMU, on a le 17 pour la police quand on est en zone urbaine et 17 quand on est en zone gendarmerie, c'est-à-dire les petits villages en dehors des agglomérations. On a le 18 pour les sapeurs-pompiers. On a le 114 pour les gens qui ont des déficiences ou handicaps qui ne peuvent pas communiquer.
Donc j'ai découvert ça sur une de tes vidéos.
Le 114, donc qui est basé à l'hôpital de Grenoble. Et donc, ils reçoivent tous les appels de la France entière et à charge de retransmettre l'appel au centre de secours concernant les appels ou le CODIS.
Donc ça marche comment? C'est-à-dire, puisque c'est pour les personnes qui sont malentendantes, ça fonctionne avec des SMS?
SMS et fax. Il faut savoir également qu'ils ont une particularité qui est apparue avec les attentats, c'est qu'effectivement, on peut les contacter si vous êtes pris dans une fusillade, dans un magasin, que vous ne voulez pas faire de bruit, vous mettez votre téléphone sur vibreur, et plutôt que de téléphoner, vous pouvez, via le 114, envoyer des messages d'alerte.
Ah.
Voilà, alors jusqu'à maintenant, ce n'était pas prévu pour ça, mais les attentats ont montré que ce mode de communication permettait, tout en restant discret, d'avertir les secours.
Voilà. Oui, parce que ce n'est jamais évident
d'appeler,
voilà. En tout cas.
Après, sur le panel des numéros, quel numéro faire? Alors nous, les sapeurs-pompiers, on milite pour un numéro unique depuis quelques années, qui est le 112. Alors 112, c'est le numéro d'appel européen à la base. C'est intéressant parce que si vous partez en vacances dans le pays européen ou des Européens qui viennent en France, on ne se pose pas de question de savoir les pompiers, la police, on fait le 112. Donc on milite pour ce numéro unique, mais on a nos partenaires institutionnels qui sont la police et la gendarmerie pour le 17, pour tout ce qui est problème de sécurité ou d'agression de personnes ou de cambriolage. On a nos collègues du SAMU avec le numéro 115 qui peuvent être contactés pour des malaises graves, mais également pour des conseils médicaux. Vous êtes à la maison, c'est 3h du matin, le gamin il est malade, il a de la fièvre, vous êtes un petit peu paniqué, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous faites le 15. Vous serez mis en relation avec un médecin régulateur qui, par téléphone, va essayer peut-être, avec la trousse à pharmacie que vous avez à la maison, vous donner quelques médicaments le temps de passer la nuit, ou alors carrément vous enverra une ambulance privée, voire peut-être un médecin. Alors les médecins, c'est plus 3 domiciles, mais au moins vous orientez vers les urgences ou une ambulance privée. Et les sapeurs-pompiers, donc le 18, qui est surtout pour tout ce qui est grave, les secours, les incendies, ces éléments-là. On a une particularité sur le département, tous ces numéros sont au même endroit, sauf le 17 et le 17 qui est soit la police, soit la gendarmerie. Mais le 15, le 18 et le 112 tombent à la caserne d'Avignon, pour ceux qui connaissent, de grands bâtiments verts. Tout le dernier étage, c'est ce qu'on appelle le CTA, le centre de traitement des appels.
D'accord.
Et donc on est dans une salle commune, où on a les collègues du SAMU, les collègues sapeurs-pompiers. Et que vous fassiez le 15, le 112 ou le 18, tout arrive au même endroit, tout est interconnecté. Ce qui veut dire que si vous ne posez pas la question de savoir...
Pas de mauvais choix.
Pas de mauvais choix. Le mieux pour nous, c'est le 112. Au moins, c'est un numéro qui est facile à identifier, notamment pour les enfants. Hein, le 112, c'est deux yeux, le nez, la bouche, 1-1-2. Voilà, c'est tout simple. Hein.
Facile.
Et c'est facile et ça permet de prévenir les secours.
Oui, parce que c'est vrai que des fois, on se pose toujours la question, qu'est-ce que j'appelle, qu'est-ce qui se passe, voilà, c'est... Donc le 112, si vous en avez un à retenir, le 112. Et puis si vous avez besoin d'envoyer des SMS ou si vous êtes malentendant, le 114. C'est
tout
ça fait. J'ai tout compris.
C'est ça.
Tout va bien. on va faire une petite pause, puisqu'on vient de passer notre première partie. Et puis on va continuer à échanger sur ces sujets-là et aller dans le détail des accidents. To call you when it's all over. I never meant to call you when it pain. Only wanted one time to see you laughing.
Purple rain.
pause musicale rock'n'roll pour cette émission Sur ma route où nous recevons le lieutenant Patrick Chavada et Geoffrey Bixot, sapeurs-pompiers volontaires. Alors, on a parlé des numéros qu'on devait appeler quand on avait un accident, et voilà, notamment, on retenait le 112. Et justement, bah, Geoffrey, tu as créé des cartes pour que l'on puisse garder ces numéros et puis les gestes à faire, les actions à faire quand on est témoin d'un accident. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de ces cartes ?
Alors oui, effectivement, j'ai créé des cartes il y a quelques jours. Alors ces petites cartes, on peut les mettre dans son porte-monnaie, dans sa voiture, dans son sac à main. Et si jamais un jour on a à faire face du coup à un accident de circulation ou simplement à appeler les numéros d'urgence. Parfois quand on a un peu stress, on oublie tous les numéros d'urgence, donc que ce soit le 15, le 17, le 18, le 112, tout est noté dessus. Donc comme vous pouvez voir devant, nous avons tous les numéros d'urgence qui sont écrits, et sur le côté verso, nous avons comment réagir face à un accident à la circulation, avec le fameux PAS. Et juste à côté, un petit QR code qui donne sur une page internet qui regroupe tous mes réseaux sociaux avec plus de 160 000 abonnés.
Voilà, le succès des vidéos de prévention, comme quoi on peut faire des vidéos TikTok sympas, un peu décalées des fois, mais tout en faisant passer des messages utiles. C'est un peu ça le but aussi, hein, t'es sur des vidéos qui sont assez grand public. Et qui permettent de faire passer des messages à la fois sur la sécurité routière, mais aussi sur plein d'autres sujets.
Oui.
De quoi tu...
Notamment contre le harcèlement, donc que ce soit le harcèlement scolaire, harcèlement moral, harcèlement physique. Il y a plein d'autres harcèlements, que ce soit les numéros d'urgence, que ce soit la sécurité routière, que ce soit les gestes qui sauvent, et plein d'autres thèmes.
Alors justement, si on parle des gestes qui sauvent, on parle souvent du massage cardiaque. À partir de quand, si j'ai appris à le faire et je sais le faire, à quel moment je me mets à faire le massage cardiaque à quelqu'un si je suis face à quelqu'un qui est par terre, inconscient ?
Oh ben c'est très simple. Jusqu'à quelques années en arrière, les discours sur le massage cardiaque étaient un petit peu, je dirais, on faisait un petit peu peur aux gens. On en est revenu maintenant et toutes les études montrent que masser un cœur qui bat, ce n'est pas dangereux. Ce qui veut dire que maintenant, dans les formations de secourisme grand public, on indique aux gens que quand on est en présence d'une personne qui est inconsciente, donc inconscient, c'est quelqu'un qui va pas vous répondre quand vous allez le toucher, quand vous allez le bouger, il ne vous répond pas. Quand on voit que la personne ne respire pas parce que la respiration, ben on regarde le ventre et si on voit que le ventre ne bouge pas, c'est que la personne, a priori, ne respire pas. Ou alors, s'il y a une respiration qui est bizarre, qui nous semble un petit peu pas normale, il faut faire des compressions thoraciques. On va faire du massage cardiaque, on ne cherche pas à comprendre. On appelle les secours, on fait des massages cardiaques. Quand on est tout seul, on met son téléphone sur haut-parleur. Et pendant qu'on fait des compressions thoraciques, on prévient les secours. Et nous, quand on va arriver, on prendra le relais. Dans beaucoup de situations, les gens n'osent pas faire les gestes parce qu'ils ont peur de faire mal. En réalité, masser un cœur qui bat, ce n'est pas dangereux, on ne tue pas les gens. Donc, il vaut mieux, dans le doute, faire des compressions thoraciques que de s'abstenir. Parce que quand vous allez appeler les secours, les pompiers, le temps de venir, c'est 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, selon le lieu où vous êtes. Il faut savoir que le cerveau, la durée de vie du cerveau sans oxygène, c'est 3-4 minutes. Donc, c'est très important que dès que vous avez quelqu'un qui est inconscient devant vous, qui ne vous répond pas, vous avez une respiration qui est absente ou qui vous semble bizarre, faites des compressions thoraciques. On appuie au centre de la poitrine, sur le sternum, c'est l'os qui est dur sur le sternum, et on va appuyer fortement sur à peu près une centaine de fois. Donc ça c'est rapide, une centaine de fois par minute.
Hein. On attend que physique hein, quand même.
C'est physique, c'est pour ça qu'on demande quand même, dans la possibilité, si on peut le faire, si on est plusieurs, d'essayer de se relier toutes les deux minutes. C'est-à-dire que pendant deux minutes, je fais des compressions thoraciques, hop, quelqu'un vient me relayer, puis on va faire ça jusqu'à ce que les secours arrivent. Ça nous permet de ne pas nous fatiguer, de garder de l'efficacité sur la profondeur et sur la fréquence des compressions thoraciques. Mais c'est important de faire ces gestes-là parce qu'on a quand même 60 000 morts par an en France d'arrêt cardiaque subi. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucun antécédent cardiaque particulier. C'est le footballeur qui s'effondre sur le terrain de foot, ouais. Qui a 20 ans. On voit tous ça à la télévision. Ben, ça arrive 60 000 fois par an en France.
Lui, il a des secouristes à côté.
Voilà, les secouristes à côté. Donc c'est important de connaître ces gestes-là parce que, foncièrement, j'ai tendance à dire que ce n'est pas les secours qui vont sauver les gens. C'est le premier maillon de la chaîne de secours, le premier témoin qui va mettre en place ces gestes-là qui vont permettre au secours d'arriver et de continuer les, après le médecin qui va arriver avec les drogues, tout ce qu'on veut. Mais si on n'a pas ce premier maillon au départ, ben pour nous, derrière, l'intervention va être compliquée.
Donc d'abord, je me protège moi.
Oui.
Je suis témoin d'un accident, je me protège moi. J'appelle d'abord les secours.
Oui, ou on appelle en faisant les gestes, selon le cas. Voilà.
C'est l'avantage du haut-parleur.
Oui.
Et après, j'essaie, si je vois que la personne ne respire pas, ou en tout cas si j'ai un doute, je fais le massage cardiaque.
Tout à fait.
Voilà. Après, moi, j'avais lu aussi que c'était dangereux de bouger quelqu'un qui était, par exemple, sur le côté, parce qu'on pouvait abîmer ses cervicales
tout
ou avoir
fait.
Des... Voilà.
Tout à fait.
Dans alors, ces cas-là, qu'est-ce que je fais?
Alors, ben, c'est ça. Les deux options, elles sont simples. C'est soit vous avez quelqu'un qui est inconscient, qui ne respire pas, ou bizarrement, vous allez masser. Voilà. Ou alors, vous avez quelqu'un qui est inconscient au sol et qui respire. On le voit parce que le ventre bouge. Après, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Bien souvent, vous le saurez parce que vous êtes premier intervenant. Donc, soit c'est quelqu'un qui a fait un malaise. Et à ce moment-là, effectivement, quelqu'un qui est inconscient, qui respire, il faut la mettre sur le côté. C'est ce qu'on appelle la PLS, la position latérale de sécurité. Soit vous avez appris à la faire, c'est bien. Soit vous n'avez pas appris à la faire, c'est tout simplement de mettre la personne sur le côté pour favoriser les écoulements à l'extérieur. La personne elle salive, s'il y a de la bave ou voire du sang, ça va permettre d'évacuer ces liquides et pas encombrer les voies respiratoires. Mmh. Par contre, depuis cette année, puisque le secourisme est une... ça évolue. J'ai tendance à dire que c'est de la médecine. On est peut-être le secourisme, c'est peut-être le dernier wagon de la médecine, mais il avance avec le train. Depuis cette année, on va demander, notamment dans les formations grand public, que quand on est en présence de quelqu'un qui est inconscient, qui respire suite à un traumatisme, de la laisser dans la position où elle est, de ne pas la toucher, de prévenir les secours et d'appliquer les consignes des secours. Et donc, c'est le médecin régulateur qui vous aura au téléphone qui vous dira en fonction de ce que vous allez lui dire, mais mettez-le sur le côté ou pas. Donc en gros, il y a deux solutions. Il est inconscient, il respire, c'est un malaise, je le mets sur le côté. Il est inconscient, c'est un traumatisé, je le laisse dans la position où il est.
D'accord.
Voilà.
Donc vraiment, la première chose à regarder, c'est est-ce qu'il respire ou pas.
Voilà. Et si vous avez un doute, vous ne savez pas ce qui s'est passé, on le laisse sur le dos, on appelle les secours.
Voilà. Parce que évidemment, les secours peuvent vous aider directement au téléphone. Par c'est téléphone. L'avantage des téléphones portables. Alors, c'est dangereux au volant, mais par contre,
et pour les secours... on a un dispositif maintenant au centre de traitement des appels où on vous assiste aux gestes de premier secours. Les gens qui n'ont pas l'habitude, le preneur d'appel, mettez vos mains là, appuyez, on va donner un rythme et n'arrêtez pas. Et on vous garde au téléphone jusqu'à ce que les secours arrivent. Voilà. Et donc, on vous aide. C'est une assistance au massage
c'est
cardiaque.
C'est un accompagnement.
Voilà, c'est un accompagnement. Alors, c'est stressant pour les gens, c'est fatigant, mais c'est le gage de la réussite d'une réanimation et de pouvoir récupérer des gens.
Oui, c'est vrai que c'est stressant parce qu'on a un peu la vie de la personne entre nos mains. Et
c'est
pas notre métier.
Le stress arrive après. Pendant l'action, on a tendance à dire qu'on est un peu dans un autre monde. Hein. On est un peu on vient de la technique. Hein. Et c'est une fois que les secours sont arrivés, qu'ils ont pris le relais, que psychologiquement, derrière... Donc ces gens-là, on les aide aussi, on les prend en compte sur l'intervention.
Là, vous devez sauver une deuxième personne.
Oui, après, on leur explique que ce qu'ils ont fait, c'était ce qu'il fallait faire, qu'il n'y a pas de souci.
Parfait. Et alors moi, la semaine dernière, j'étais témoin de quelque chose d'assez impressionnant. Il y avait une voiture sur le rond-point à Carpentras qui a pris feu. Moi, je suis arrivée, elle était déjà bien en feu, jour de Mistral en plus, donc c'était assez impressionnant. Pareil, si je me rends compte que ma voiture prend feu, qu'est-ce que je fais?
Ben, vous évacuez la voiture.
Je pars en courant, oui.
Vous sortez de la... Alors, vous essayez, dans la mesure du possible, vous essayez de vous garer dans un endroit dégagé de la circulation. Si vous êtes... C'est le cas ici, un milieu forestier, essayer de vous mettre dans un endroit assez éloigné de la forêt pour ne pas générer un départ feu de forêt. Mais surtout, c'est essayer de se garer si on peut. On va enlever ses affaires personnelles si on peut. On évacue la voiture et puis on appelle les pompiers. On fait le 18 et puis on attend. Vous n'avez pas de risque d'explosion. Une voiture qui explose, c'est essentiellement dans les films américains.
C'est la question que je me suis posée. Hein, oui. Parce que me suis dit, waouh.
Donc c'est impressionnant parce qu'un véhicule, c'est fait, il y a de l'essence, il y a de la graisse, il y a de l'huile. Donc ça prend de l'ampleur, ça fume noir, puis c'est que des composants plastiques en règle générale. Donc ça va fumer, donc vous vous éloignez. Les quelques explosions que vous allez entendre, c'est les pneus. Mmh. Parce que les pneus soumis à la chaleur, mon ils vont exploser. Donc effectivement, on peut avoir éventuellement des projections de morceaux de pneus, donc on s'éloigne du véhicule. Mais on n'a a priori pas de notion. Les seules situations où on a des embrasements de véhicules, on est sur un embrasement et pas une explosion. C'est-à-dire un véhicule qui va percuter un mur, un camion ou un objet particulier. Le réservoir va s'éventrer. Et l'essence qui va être projetée sur les éléments chauds du moteur vont faire qu'on a un embrasement spontané de l'essence. Et donc, c'est un embrasement, mais ce n'est pas une explosion.
D'accord.
Voilà, donc
c'est impressionnant.
C'est impressionnant, mais c'est la sécurité. On évacue le véhicule, on met son gilet jaune, on évacue, on se met à l'abri. Et puis, on attend.
À quelle distance il faut se mettre
Vous mettez à 150 mètres.
Oui,
alors, évidemment, on a les véhicules maintenant. Il faut y avoir des véhicules à hydrogène. Donc effectivement, les nouveaux dispositifs qui sont mis en place sur les véhicules, il y a des systèmes de sécurité qui font que les véhicules, il y a peu de dangers d'explosion, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Donc c'est la sécurité, c'est à 150 mètres du véhicule, et puis vous attendez les secours, quoi.
Voilà, bon, c'était très très impressionnant, voilà. Et après effectivement les pompiers sont arrivés, la police était là avant, et voilà. Mais, donc 150 mètres, et effectivement ça ne fait pas comme dans les films américains, ça ne va pas exploser.
Tout à fait.
Je vous avoue, hein, je me suis posé la question.
Oui, non, mais parce qu'on voit beaucoup
c'est
de films à la télévision, dès qu'il y a un accident, la voiture explose.
Bon, je crois qu'il y a un sujet pour une prochaine vidéo, Geoffrey, peut-être.
Effectivement.
Sur les voitures. Et oui, les nouvelles voitures, le GPL, l'hydrogène, tout ça, ça n'a pas plus de risques
Ça nous impose avoir des méthodologies d'intervention différentes par rapport à des véhicules, je dirais, à énergie classique. Donc on va prendre des précautions supplémentaires parce que tout ce qui est véhicule électrique, on peut avoir des soucis. Alors ce sont des câbles haute tension, donc on doit faire attention où on met les mains, comment on intervient. Donc on a tout un tas de dispositifs. Les véhicules à hydrogène ou au gaz naturel de ville, on a des méthodologies d'intervention particulières. Mais je dirais, j'ai tendance à dire que sur le panel de feu de véhicules qu'on fait en général, ça impacte peu ce type de véhicule.
Ça arrive souvent d'ailleurs qu'une voiture prenne feu?
Oui, ça arrive régulièrement parce que ce sont des organes moteurs qui ont il y a de la casse, il y a la durite qui fuit et donc on ne s'en aperçoit pas. Et puis à un moment donné, ça s'enflamme et puis ça prend feu. Ou des problèmes électriques, ça arrive régulièrement. Ouais.
Bon, c'était la première fois que j'en croisais une. Voilà, en tout cas, c'était assez impressionnant. Ça t'est déjà arrivé, Geoffrey, d'intervenir sur ce genre d'accident?
Oui, tout à fait.
Et alors
Pour le premier, oui, c'est un peu impressionnant. Moi, je me rappelle mon tout premier feu de voiture, c'était trois voitures côte à côte. Sur Carpentras.
Donc, en plus, c'était...
Oui, en pleine nuit. Donc, c'est vrai que pour un premier, c'était assez impressionnant. Après, j'en ai fait d'autres, mais il y a toujours un peu le stress de l'intervention.
Évidemment, ça fait partie du métier, mais je pense que l'adrénaline fait partie aussi de ce qu'on recherche un peu. En tout cas, ça tient.
Le stress est protecteur.
Voilà.
Quelqu'un qui n'a pas de stress, c'est quelqu'un qui est dangereux. Il faut toujours un petit peu de stress.
Voilà. Le jour où vous n'avez plus de stress, il faut changer de métier.
Il faut arrêter. Voilà.
Et bien parfait, on va faire une deuxième petite pause musicale et on se retrouve juste après pour continuer à parler sécurité routière.
Dis maman, pourquoi je suis pas un garçon ? Thank you.
retour pour parler sécurité routière avec le lieutenant Patrick Chavada et Geoffrey Bixot, sapeur-pompier volontaire, et beaucoup d'autres choses. Je crois que tu n'es pas que sapeur-pompier volontaire.
Oui, plus. Effectivement.
Tu travailles à la gendarmerie, c'est ça?
C'est ça, je suis réserviste au sein de la gendarmerie nationale. Je suis aussi agent de surveillance de la voie publique sur la commune de Mormoiron et sapeur-pompier volontaire depuis 7 ans.
Donc en fait, c'est ton travail à temps complet, tu t'occupes des autres tout le temps?
Oui.
En dehors et de faire des vidéos, mais...
Voilà, en parallèle, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux concernant la prévention et la sensibilisation.
Et vous avez beaucoup de jeunes comme ça qui viennent, qui ont envie de travailler, de faire ce métier-là?
Oui, on a des jeunes qui sont intéressés pour... Alors, on a les jeunes sapeurs-pompiers, ce qu'on appelle les GSP, jeunes sapeurs-pompiers, à partir de 12-13 ans, où ils viennent, bon, c'est tous les mercredis, pendant 2-3 ans, ils viennent s'entraîner. Ce sont des jeunes qu'on récupère après, pompiers volontaires, dans leur commune où ils sont. Ou alors, on a des jeunes et des moins jeunes, puisque le sapeur-pompier volontaire, par essence, c'est des jeunes, mais des moins jeunes aussi. On peut avoir des gens de 40 ans, 30 ans, 50 ans.
On peut devenir sapeur-pompier volontaire
à 50 ans,
à n'importe quel
sans âge. Souci particulier, si vous avez de la disponibilité, parce que le problème du pompier volontaire, c'est un... Il va falloir de la disponibilité pour la formation. Et deux, il faut que, effectivement, le contexte familial, parce que bien évidemment, si vous êtes pompier volontaire, ben, le soir, ça bip, vous quittez la maison.
Allez,
il faut que
les accidents ne se passent pas entre 8h et 17h en semaine.
Surtout, il y a surtout une, je dirais, un accord de la famille, parce qu'effectivement, il y a un impact. Il y a des gardes à faire le samedi, les soirs, les week-ends. Ça peut tomber pour un pompier volontaire le jour de Noël, le jour de l'an. Donc il y a un impact quand même familial qui est relativement important. Ça demande aussi à ce que la famille soit d'accord, parce que l'objectif, ce n'est pas que tous nos pompiers volontaires divorcent, c'est qu'ils restent bien dans leur famille.
Qu'ils soient bien aussi, quand même.
Qu'ils soient bien aussi. Et donc les pompiers sont ouverts à toutes les personnes qui veulent bien s'investir pour être pompier volontaire avec une formation adéquate. Mais c'est ouvert aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Et si on veut se former au premier secours, comment ça se passe?
Alors, pour se former au premier secours, deux types de formations, ce qu'on appelle les gestes qui sauvent. C'est une sensibilisation qui fait 2 heures. On va vous apprendre à traiter une hémorragie, les compressions thoraciques dans l'arrêt cardiaque. On va parler du défibrillateur, des positions d'attente. C'est très court. C'est une formation qui est issue des attentats de Paris, qui a été mise en place justement pour former un maximum de population. Et derrière, on a ce qu'on appelle le brevet de secourisme, que les gens connaissent, qui dure 7 heures, le PSC. Où là, on va un petit peu plus dans le détail sur les malaises, les fractures, les plaies, les brûlures, l'arrêt cardiaque, l'inconscient qui respire, le malaise, le pas le malaise, l'alerte, tous ces éléments-là, ça dure 7 heures. Si vous êtes intéressé pour suivre une formation de secourisme, vous allez à la caserne des pompiers la plus proche de chez vous, vous tapez, vous dites, voilà, j'aimerais passer
je voudrais passer mon
brevet de secourisme, et tout simplement, on vous orientera vers le collègue moniteur ou vers l'Union départementale des pompiers du Vaucluse, puisque nous formons à peu près entre 3 000 et 4 000 personnes par an aux gestes de premier secours. Alors, il n'y a pas que nous, il y a aussi les collègues de la Croix-Rouge, la Protection civile, il y a d'autres associations. Mais si vous voulez être formé par les sapeurs-pompiers, vous allez à la caserne la plus proche, vous vous présentez et vous serez pris en compte.
Mais tout le monde devrait le faire. Alors, je le dis, mais je ne l'ai pas fait. Hein, donc, oui. Voilà. Pourquoi on ne le fait pas? Alors, je sais que vous intervenez en école. Pourquoi on le... c'est pas quelque chose qui est obligatoire à l'école?
Parce
que
je pense qu'on doit être acteur de sa propre sécurité. Et c'est pas ça. Alors ça s'améliore, bien évidemment. Hein. L'État fait tout pour que ça s'améliore. Mais on est quand même réticent à... Alors c'est une journée de formation. C'est sur un samedi, c'est quelques soirées. Donc c'est après le travail. Donc des fois, on traîne un petit peu les pieds. Mais ça s'améliore. On a de plus en plus de gens qui viennent se former. Puis l'État, quand même, a sorti des textes réglementaires qui imposent la formation, notamment dans les collectivités territoriales, dans les entreprises. Il y a une loi qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui impose pour toutes les personnes qui partent à la retraite que l'employeur les forme aux gestes qui sauvent. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui se mettent en place pour former la population. Mais bon, ça se fait, je dirais, tranquillement. On est en France, ça se fait doucement, ça se fait. Donc nous, on est là pour... Et c'est le travail de Geoffrey aussi, hein. C'est de, par les réseaux sociaux, c'est de toucher tous les publics. Non, nous, on touche un public d'un certain âge. Geoffrey a tendance à toucher les plus jeunes, qui ne sont pas, je dirais, la jeunesse. On ne pense pas à l'accident, on ne pense pas à l'arrêt cardiaque. On est dans la vitalité, on est dans la joie. Et donc, effectivement, si Geoffrey, par ses petites vidéos, peut leur amener sans avoir passé la formation... Rappelez-vous, il y a quelques années, on avait des émissions à la télévision qui montraient des gestes qui sauvent. Et donc, il y a des gens qui reproduisaient les gestes par rapport à ce qu'ils voyaient à la télévision. Donc, c'est important.
Oui, ça devient des réflexes aussi, en fait, c'est un peu ça.
Ça devient des réflexes. Et une chose importante aussi, le secourisme est aussi pour les personnes handicapées. Les gens qui ont un handicap, on peut les former au secourisme. Quelqu'un qui a un handicap, même s'il ne fait pas le geste, il peut faire le geste. Donc, quelqu'un qui va être en fauteuil roulant, qui aura suivi une session de secourisme, ben peut-être qu'il va pouvoir guider un valide pour faire le geste de premier secours. Donc j'ai tendance à dire, même si vous avez un handicap, venez pousser les portes de nos casernes, venez vous former parce que vous serez également maillon essentiel de la chaîne des premiers secours.
Ouais, c'est important de le dire, c'est aussi important, ça. Oui. Ouais, complètement. Et j'ai vu aussi qu'une fois qu'on était formé et qu'on savait, donc ça c'est pareil, hein, c'est sur les vidéos de Geoffrey, il y avait une application qui permettait d'être géolocalisé et potentiellement d'être prévenu si quelqu'un avait un problème pour pouvoir faire un massage cardiaque ou des choses comme ça, c'est ça ?
C'est ça, oui, sur Save Life et Staying Alive. Alors mon anglais n'est pas...
Staying Alive.
Voilà, mais oui, donc on peut les télécharger sur chaque téléphone. Et dès qu'une personne contacte les secours parce qu'il y a un arrêt cardiaque, donc l'opérateur qui est au centre d'appel à Avignon voit votre localisation et peut vous déclencher avant les secours.
D'accord.
Ça permet de gagner du temps au niveau du massage cardiaque et de sauver une vie.
D'accord.
Tout à fait. Donc il faut télécharger l'application Staying Alive. Donc nous, c'est la base qu'on a sur le CODIS à Avignon, le centre opérationnel. Et donc, si vous avez un arrêt cardiaque qui se produit dans un rayon de 500 mètres de votre position sur la voie publique, vous recevez une notification qui va vous demander si vous voulez bien aller vous rendre sur place pour faire les premiers gestes. Alors, pour être référencé, il suffit tout simplement de s'inscrire, de dire que vous avez votre brevet de secourisme, et donc, tout simplement, vous serez déclenché au même titre que les secours. Simplement, vous êtes de proximité, puisque vous êtes dans les 500 mètres de la personne, et quand on sait que le cerveau, c'est 3 minutes, pour nous, c'est important qu'on ait un premier témoin. On a des situations où ça a été déclenché. On a des gens qui ont été sauvés. Je pense notamment à une intervention sur Vaison-la-Romaine, où c'est un policier qui avait l'application, qui a été alerté, qui est allé faire les premiers gestes, et la personne a été récupérée, a été sauvée. Donc ça marche.
Parfait. Donc Staying Alive, c'est voilà. Ça. L'application, il faudrait trouver un nom français, ça pourrait être pas mal aussi.
Alors pourquoi Staying Alive ? Parce que la chanson Staying Alive, c'est le tempo pour les compressions thoraciques.
Ah !
Voilà, c'est le même tempo des 100 par minute.
D'accord, voilà. Donc si on veut bien faire un massage cardiaque, il faut mettre la chanson voilà. Staying Alive.
Dans la tête, vous faites.
Parfait, si en plus on peut faire ça en musique. Alors, on va aussi parler des comportements à risque. J'aimerais bien que vous me donniez votre expérience de terrain, puisque vous êtes face aux accidentés. Quels sont les comportements à risque aujourd'hui que vous voyez le plus et que vous aimeriez voir disparaître? Alors, on peut peut-être
Alors,
rêver,
pour moi,
mais...
pour moi, un comportement à risque, donc, c'est par rapport à la vitesse, à la drogue, à l'alcool, à la somnolence aussi. C'est un comportement à risque.
Et alors, par rapport à la drogue, justement, qu'est-ce que ça a comme effet quand je prends de la drogue et que je me mets à conduire? Qu'est-ce que ça fait derrière? Est-ce que j'ai moins de réaction? Est-ce que je suis moins rapide?
Effectivement, il y a tout ce qui est alcool, drogue, médicaments, altère vos facultés intellectuelles. Donc, vous avez un ralentissement de vos réflexes, ce qui veut dire qu'entre le moment où vous voyez un obstacle et le moment où vous allez freiner, les distances sont démultipliées. Et donc, effectivement, on n'a pas la même perception. On est euphorique ou on est somnolent. Et donc, automatiquement, on n'est pas dans un état normal. Et donc, c'est générateur d'accidents graves. Après, dans les comportements qui sont... Et c'est là où je dis qu'il faut être acteur de sa propre sécurité. On a depuis quelques jours des épisodes de vent très violents, hein, puisqu'on a eu, des pointes à 200 km/h sur le Mont Ventoux, 140 km/h à Murs. Il faut savoir qu'on voit encore des gens monter sur les toits pour essayer de remettre l'antenne qui a été bougée pendant qu'on a des rafales à 120 km/h.
Quelle bonne idée.
Voilà, donc j'ai tendance à dire que ça fait partie d'être acteur de sa propre sécurité. Mais quand on a une tempête de vent, mais quand on est averti par les vigilances jaunes, oranges, voire rouges, hein, de Météo France... Eh bien, c'est déjà la prévention, c'est de ranger tout ce qu'on a dans le jardin qui peut s'envoler, les jardinières sur les fenêtres, les enlever. Quand le coup de vent il va passer, eh bien, on reste dans la maison tranquillement, même si on entend du bruit, si on entend craquer.
Et si on n'a plus la télé, c'est
voilà,
pas grave.
C'est pas grave. Si on voit des tuiles s'envoler, eh bien, on attend et on fait le bilan des dégâts le lendemain. Vous ne quittez votre habitation que si vous êtes en danger. Une toiture qui s'effondre, qui s'arrache, effectivement, vous allez quitter l'habitation. Mais si vous êtes en danger, se promener en forêt, quand on a des rafales à 120 km/h, c'est juste bon pour prendre un arbre sur la tête. Donc il y a tous ces éléments-là, et je pense que la population ne prend pas assez conscience que quand on est même en vigilance jaune, le danger existe.
Et en voiture, le vent, est-ce qu'il y a une manière de conduire différente? Est-ce qu'il faut ralentir sa vitesse?
Il faut ralentir. Après, selon le type de véhicule, si vous avez une fourgonnette, ben vous avez plus de prise au vent, donc vous allez plus bouger. Donc c'est déjà avoir les deux mains sur le volant. Voilà, c'est important. Réduire sa vitesse. Et puis, si on peut éviter les déplacements, on les évite. Quand on est en vigilance orange pour de l'inondation, pour des orages ou pour du vent violent, eh bien, tout ce qui n'est pas vital, eh bien, on le reporte au lendemain. Je vais faire les courses. eh bien, j'irai le lendemain. Je devais aller me balader, j'irai le lendemain. On reste à la maison tranquillement et on attend que ça passe.
Oui, parce que même ici, dans un territoire où on a l'habitude du vent, vous voyez encore des gens sortir et faire des déplacements inutiles les jours où on est en alerte.
Oui, ou quand on est en vigilance orange, on continue à vaquer à nos occupations, alors que vigilance orange, ça veut dire qu'il y a potentiellement un événement potentiellement dangereux, que ce soit de l'inondation, de la pluie, du vent. Donc il faut qu'on se dise, bon, mais si on a des obligations professionnelles, on va les faire. Mais si on n'a rien de particulier, ben, on reste à la maison, on fait une tisane, on regarde la télé, puis on attend.
On attend le lendemain que ça passe, ou 3 jours, puisque oui, par voilà. Ici, c'est plutôt quelques jours. Dans les autres comportements à risque, il y a aussi, on a parlé la dernière fois, des trottinettes, des vélos, le casque. Est-ce que c'est important de porter un casque ?
C'est super important de se protéger quand on est en vélo ou en trottinette. En sachant que le port du casque n'est pas obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans, mais il est obligatoire pour les personnes de moins de 12 ans, donc que vous soyez en ville ou dans la campagne.
Mais bon, pas obligatoire, je pense que c'est quand même mieux de...
C'est recommandé.
Ouais.
Voilà, voilà. La moindre chute, même de sa hauteur, et vous tombez, vous cognez la tête contre un bordure trottoir, vous pouvez tuer. Dernièrement, malheureusement, on a cette expérience de cet acteur jeune qui est mort sur une piste de ski bleue. Je veux dire, c'est pas les pistes de ski rouges. Hein. Manque de peau, il n'avait pas mis le casque, bon, comme font beaucoup de gens. La chute a été mauvaise, il est mal tombé, il est décédé. Donc on a des situations, effectivement... Les gens se blessent gravement alors que le port d'un casque, alors certes, ce n'est pas esthétique, bon, mais ça permet de... La tête, en voiture, on a une protection avec l'habitacle. Quand vous êtes en trottinette, en vélo, en ski, la protection, c'est vous. Hein. Donc une boîte crânienne, c'est quand même fragile. Il y a un choc important, peut provoquer des blessures graves, voire la mort.
Donc ce n'est pas très très joli, mais tout ça n'empêche que... C'est important. Et donc, effectivement, vous le voyez sur les accidents, dans ces cas-là, c'est...
On le voit quotidiennement. Dans les comportements à risque aussi, j'en parle sans vouloir accabler personne. On a malheureusement, on a eu un décès à déplorer sur le lac de Montmoron, dernièrement, parce que le lac était gelé. On a une personne qui a de bon aloi voulu aller sauver son chien qui était en difficulté. Donc voilà, je crois que ça fait partie des éléments. Quand je dis qu'il faut se protéger avant d'aller porter secours, déjà, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on va se mettre en danger ou pas.
Mais c'est ça, de penser d'abord à... C'est vrai que c'est difficile hein, quand on est face à un accident ou quelque chose, de se dire je pense d'abord à moi.
Vous êtes à Avignon, quelqu'un se jette dans le Rhône, est-ce que vous y allez ou pas ? Voilà, la question c'est ça.
J'appelle les secours.
Voilà, ou j'envoie une bouée, mais est-ce que je vais aller plonger dans le Rhône ? Là, il faut faire attention.
Oui, parce qu'au final, après, pour les sauveteurs, les pompiers, vous êtes obligé de sauver 2 personnes au lieu d'en sauver qu'une.
Il faut faire attention.
Donc voilà, donc vraiment, s'il y a un conseil à donner, je pense, c'est d'abord... Appeler les secours.
Oui, et se protéger.
Et se protéger, comme ça, derrière, les secours vont aussi vous dire, faites peut-être aussi, ne sautez pas, faites telle ou telle action. Ça, c'est ça aussi le conseil à donner. Et parfait, on arrive déjà à la fin de notre émission. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Geoffrey, si on veut justement continuer à avoir ces messages de sécurité, de prévention ? Comment on voit tes vidéos ?
Alors, je suis disponible sur TikTok, Instagram, YouTube, Twitter... J'ai fait aussi un compte Snapchat.
Et partout.
Je suis de partout. Voilà, sur Facebook aussi. Donc après, là, j'ai fait les petites cartes avec le petit QR code qui retombe sur une page internet. Et dessus, sur la page internet, tous mes réseaux sociaux sont indiqués.
Parfait. Donc voilà, donc suivez-le. Ça vous permet aussi d'avoir... moi, j'ai appris plein de choses sur ces vidéos, et donc c'est assez sympa à regarder. Lieutenant, merci beaucoup d'être venu. Merci si on veut devenir pompier volontaire, comme Geoffrey, on fait comment ?
Eh ben, on va à la caserne de pompiers la plus proche de chez soi, on se fait connaître, puis on dit qu'on veut être pompier volontaire, et puis vous aurez des collègues qui vont vous prendre en compte, qui vont vous expliquer un petit peu les démarches à suivre.
Parce qu'il va peut-être y avoir quelques vocations après ces vidéos et les abonnés.
Oui, j'espère.
Vous êtes toujours preneur, en tout cas, d'aide.
Tout à fait.
Parfait. Eh bien, merci beaucoup d'être venu pour répondre à mes questions sur la sécurité routière. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine émission de Sur ma route.
Merci à vous. Merci, RTVFM.
Au revoir.
Au revoir.
RTVFM vous a présenté l'émission Sur ma route, réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse.